être un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
Midi, 2 minutes, Denis Gravel qui est en place. L'après-match de son entrevue hier avec peut-être le futur maire de la Ville de Québec, qui sait, Sam Ahmad. J'ai très hâte de voir les prochains sondages qui vont sortir là, depuis que Sam Ahmad s'est bel et bien lancé dans la course à la mairie, parce que là, il y a plusieurs personnes qui se présentent. Il y a le maire Marchand qui se représente, le maire sortant, Sam Ahmad qui arrive, Stéphane Lachance qui est là.
Claude Villeneuve.
Puis on a Jackie Smith aussi.
C'est beaucoup trop.
Ben, c'est ce que je te disais hier.
C'est fait drôle de dire qu'il y a trop de candidats, parce que plus il y a de candidats, plus il y a de choix. Mais est-ce que c'est vraiment vrai à Québec que parce qu'il y a plus de candidats, il y a plus d'alternatives? On en a parlé souvent. Je veux dire, Claude Villeneuve et Bruno Marchand, des fois, c'est dur de distinguer les programmes et les visions. On sait que Sam Ahmad va probablement annoncer une fusion avec un parti municipal déjà en place. Moi, je pense que dans cette élection-là en particulier, qu'on réduise le nombre d'alternatives ou pas, ça va rester une lutte à deux. Puis on a lancé ça hier, tabarnouche. C'est parti, enfin!
Oui. Est-ce que tu as été agréablement surpris de sa présence sur nos zones? Est-ce qu'il t'a appris quelque chose? Comment était-il face à vos questions? Moi, j'ai réécouté l'entrevue par la suite, là, après Marceau soir, en soirée. J'ai trouvé que c'était une super de bonne entrevue. Par contre, je l'ai senti fatigué sur certaines questions. Ou à un moment donné, je pense que c'est Audrey qui a posé la question, mais pourquoi vous dites pas tout au départ?
Ouais.
Il était comme tanné. Il était tanné.
Puis en même temps, il faut qu'il comprenne de son côté qu'on parle au fantôme de Sam Ahmad depuis maintenant presque 2 ans. Fait qu'évidemment, pendant 2 ans, les questions, on les a accumulées. Puis, mais il a fallu s'ajuster, veux pas, Yann, parce que, tu sais, comment j'ai trouvé Sam Ahmad? Ben, il avait déjà affiché ses couleurs la veille quand il a fait son annonce devant son public conquis d'avance. Donc, je me doutais qu'on ne saurait pas grand-chose de ses engagements et de son programme. Fait qu'en partant avec cette base-là, par contre, il y a des petites phrases qu'il a lâchées que moi, je trouve drôlement intéressantes. Parce que c'est quoi le but? C'est le plus rapidement possible, c'est trouver les différences entre Sam Ahmad et Bruno Marchand pour faire un choix éclairé.
Parce qu'on est déjà habitué à avoir des partis qui se ressemblent et qui s'opposent malgré tout à la Ville. Là, c'est intéressant pour ça. C'est vrai que la division est importante.
La Ville se défend en disant ce que Sam Ahmad a dit hier sur les ondes de radio, c'est faux. On va devoir payer une pénalité. C'est obligatoire. Alors que Sam Ahmad dit, attendez un peu, moi, j'ai lu ce qu'il y avait à lire sur le dossier, puis il y a moyen de ne pas payer de pénalité. Puis quand est-ce qu'un gouvernement provincial poursuit un gouvernement municipal? C'est-tu arrivé dans l'histoire?
Ce qui arrive, et c'est le point commun entre la version de Sam Ahmad et la version de la Ville, c'est que tu peux t'entendre avec la vice-première ministre. Tu peux t'entendre pour dire on laisse tomber le projet pour des raisons d'économie, par exemple. Ce qui va être facile à amener si on décide d'abandonner le projet en 2027. Donc, il y a toujours une possibilité qui finit pas avec des amendes et des pénalités. Mais pour les gens qui veulent le tramway, c'est sûr qu'ils vont essayer de faire du chemin le plus possible avec cet argument-là, mais ça commence à s'accumuler. On sait que le gouvernement peut dire non en 2027. On sait maintenant qu'il y a une possibilité d'entente sur les pénalités advenant qu'un maire actuel ou futur décide de ne pas aller de l'avant avec le tramway. Encore faut-il s'asseoir puis se parler. Encore faut-il qu'il y ait de la bonne volonté des deux côtés, ou qu'il y ait une élection à gagner, ce qui va être le cas au provincial.
J'ai une hypothèse là-dessus sur l'idée de Sam Ahmad, 418-971-101. Je vais entendre les auditeurs sur cette hypothèse-là, ou peut-être d'autres hypothèses. J'ai l'impression que tout va être applicable. Tout ce qui va se passer du nord vers le sud et du sud vers le nord va être applicable dans ce qui a déjà été annoncé. Mm-hmm. Mais le tramway ne se fera pas tout simplement. Puis on va remplacer ça par un fameux SRB. Le fameux SRB de Régis Labeaume d'antan.
Ouais, ce qui est appelé la mobilité intelligente, moi j'ai l'impression qu'on va revenir à peu près à 95% de ce qu'était le projet du SRB, qui était l'alternative au tramway à partir du moment où on n'en faisait pas. La taxe au chat. Bullshit qui m'a dit Sam Ahmad. J'ai été surpris par le franc de la réponse. Dans ma tête, mon interprétation, c'est qu'il va l'enlever.
Avec bullshit.
Peux-tu vérifier? Je pense que Sam Ahmad vient de la Syrie, de mémoire.
Oui. Il nous en a parlé hier, il vient de la Syrie.
Mais tu sais quoi? Ça m'a mis à terre bien raide d'entendre que c'est un Syrien qui dit « Au Québec, là, faire un feu, là, c'est la base. Ça fait partie de notre culture.
Ouais, ouais, ouais.
Alors que t'as l'autre qui est né ici, qui dit « les feux dehors, ça tue 100 personnes ouais. par année ».
Ben, vois-tu, ça, c'est l'autre point que j'ai trouvé intéressant. On commence à les sentir, là, les points de distinction entre Bruno Marchand et Sam Hamad. L'histoire de l'interdiction des feux de foyer, Sam Hamad n'a pas de l'air très enclin à poursuivre sur cette lignée-là. La démolition du Colisée, il trouve que c'est un autre dossier où on a bretté. T'as l'impression que pour Sam Hamad, le livre n'est pas fermé. Le feeling qui est un peu décevant dans une conversation comme celle-là, puis moi j'ai eu du plaisir à faire l'entrevue, puis Sam Hamad était de bonne humeur, puis on a jasé une quarantaine de minutes, c'est super. Mais tu sais qu'il y a des annonces qui vont s'en venir en campagne électorale. On revient à la stratégie, on revient au plan de campagne de mobiliser et de causer le discours à tous les jours. Fait qu'à un moment donné, dans la campagne électorale, jour 3, tu vas avoir une annonce sur la taxe aux chats. Jour 5, tu vas avoir une annonce sur les feux de foyer. Jour 7, tu vas avoir une résolution sur la taxe sur l'immatriculation des véhicules. Parce que là-dessus non plus, Sam Hamad n'avait pas l'air de trouver que c'était une bonne collaboration avec les automobilistes d'imposer ce montant-là et ouais. cette taxe-là.
Mais j'ai hâte qu'il livre, parce que de oui. dire que ça, ça n'a pas de bon sens, mais à un moment donné, de l'autre côté, l'économie de Québec ne va pas super bien. Les coffres ne sont pas très bien remplis. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a dit « Pour demander un effort supplémentaire à tes citoyens, il faut que tu démontres, toi, de ouais. ton côté...
Ouais. »
le premier effort. Et ça, on ne l'a pas entendu de la part de la mairie. Là.
Il nous a reconfirmé qu'il était là pour 4 ans. J'aime beaucoup ce deal-là.
Je pense que ça va être le point fort de sa campagne.
Je pense que moi aussi, je suis d'accord avec toi, j'ai un peu la même vision.
Il
n'a
pas
que...
besoin de cette job-là.
Mais
ouais,
le gars aussi
il va là
dit
pour faire le ménage.
Mandat,
moi, j'y ai dit mais lui dit que c'est un engagement puis qu'il ne se voit pas poursuivre ouais. après ça. Il va préparer de la relève pour poursuivre, mais il pense que 4 ans, c'est suffisant pour faire ce qu'il veut faire avec la Ville de Québec puis pour mettre de l'avant les engagements qu'il va nous annoncer vraisemblablement.
Denis, tu fais de la radio, tu le sais qu'il y a en onde et il y a hors d'onde dans une entrevue avec une personnalité ou n'importe qui passe ensemble, même nous ensemble. Qu'est-ce que tu as senti hors d'onde ou dans la prestance de Sam Hamad qui n'a pas été perçue en entrevue?
Écoute, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que Sam Hamad est content de revenir dans l'aquarium. Puis le feeling que j'avais, c'est qu'il était content de commencer à parler au monde de Québec, puis du fait qu'il voulait redevenir. Puis c'est ça qu'il m'a dit, puis je pense qu'il me l'a dit à l'extérieur des ondes. T'sais, ça fait des mois que je suis dedans, là. C'est juste qu'on peut pas en parler encore. Fait que tu sais, le clash depuis 24 heures versus depuis quelques mois... Je le vis pas vraiment, mais moi, je l'ai senti. Mm-hmm. J'ai senti que la vibe, c'était la vibe d'un gars qui était content de retrouver
la
politique.
Il y a un truc quand même de Sam Hamad que j'ai goût de mettre en lumière, c'est qu'il nous a pas menti. Il a jamais dit quand il allait le faire, mais on était capable de savoir qu'il allait le faire.
Ben
puis
oui.
Depuis un an, tu croisais cet homme-là, puis ça m'a donné un peu l'idée de comment il va faire de la politique pour la suite. Surtout qu'un mandat de 4 ans, là, le avant... Bien qu'on soit au courant, qu'il soit au courant qu'on est au courant, qu'on attend juste une date, la manière dont il a managé ça parle de lui.
Quelque chose qui peut être intéressant d'ailleurs, puis ça, c'est pas nouveau, là. Il l'a fait à toutes les entrevues qu'il a faites ici. Il renvoie un texto après pour demander, les auditeurs, ils ont trouvé ça
oui,
comment?
Il est très alerte là-dessus.
Oui, puis je pense que c'est justement pour être en mesure de s'ajuster s'il y a des choses qui ont mal passé ou whatever, puis j'imagine que s'il le fait ici, il le fait sur les autres tribunes aussi. Moi, cette curiosité-là, ça peut être perçu de deux façons. Soit que tu as la carapace très sensible puis tu veux absolument là, réagir à des critiques qu'il pourrait y avoir, ou encore, tu sais, quand on dit on veut ramener le citoyen au cœur des décisions et ainsi de suite, mm-hmm. on peut voir une écoute là-dedans. Puis je pense que dans le cas de Sam Hamad, c'est vraiment une curiosité à savoir, je suis-tu ces bonnes affaires? Je me présente-tu de la bonne façon? Est-ce que j'ai les bonnes idées? Et ainsi de suite.
Il est très, très, très grounded. Puis ce que j'ai aimé hier, je pense que c'est dans cette entrevue-ci, c'est quand il a dit « La ville a décidé... » J'ai tendance à vouloir prendre son accent. « La ville a décidé, Denis...
» Monsieur Gravel.
De faire elle-même un projet de 10 milliards.
Ouais,
là, le
ouais.
CAQ a dit, attendez un peu, là, c'est un gros projet. Si ça déborde, ça va être l'enfer. Donc, on a retiré ce projet-là à la ville. On s'est fait enlever ce projet-là. Puis c'est vrai qu'on se l'est fait enlever. Mais le problème, c'est que même si le maire Marchand dit, ce projet-là, ça va faire partie de mon mandat que j'ai fait de 4 ans, puis ça va être dans mon bilan, ça peut pas être dans ton bilan. Tu te l'es fait enlever.
Exact.
Et ce projet-là ne t'appartient plus.
Puis tu l'as enlevé à la ville de Québec, ultimement.
Carrément.
Je suis peut-être un peu chauvin à ce niveau-là. Parce qu'on est d'accord ou pas avec les décisions d'un maire ou les décisions d'une ville, mais moi, je pense que c'est à une ville de contrôler un projet comme celui-là. T'sais. Si on nous l'a enlevé, il y avait peut-être des bonnes raisons. Puis c'est peut-être le plus grand paradoxe déjà de Sam Ahmad, le politicien, de dire et de répéter qu'il ne veut pas attaquer le maire Marchand, mais il l'a planté en tabarnouche hier, par exemple. Ouais. On jase. Là.
T'attendais-tu à ça ou tu t'attendais à plus de finesse, et je le dis pas dans la mauvaise façon de le dire?
C'est parce que si tu... joue la carte en partant que tu feras pas de politique contre les gens en place, mais que tu le fais, je trouve qu'il y a un paradoxe là qui sert peut-être pas Sam Ahmad. Dis que t'es là parce que t'es pas satisfait du travail du maire puis de l'hôtel de ville, puis vas-y. Hier, ça a été une charge à fond de train contre l'administration de Bruno Marchand.
C'était mon point négatif. Ouais. Je me disais, il y a pas besoin d'aller là. Il n'y a pas besoin d'aller là, donc pourquoi aller là?
En même temps, si c'est ça qui le motive, il faut qu'il nous l'explique. Exact. Mais tu peux pas faire les deux en même temps. Moi, c'est surtout ça qui m'agace.
Ouais,
là,
bien dit.
Exact. Hey, je te ramène un peu sur un dossier que j'ai parlé tantôt avec Pascal. C'est le fameux chauffeur d'autobus en psychose. Là. Il y a eu 2 enfants qui sont décédés. Puis hier, ben, autant du côté de la Couronne que de la Défense, on disait que ce gars-là, Pierre Nie Saint-Amand. Il y avait eu un épisode assez particulier où il était totalement en psychose parce qu'il y avait beaucoup de stress dans les derniers jours, parce qu'il était supposé se marier, puis là, ben, pour avoir les papiers, il fallait qu'il retourne dans son enfance, puis là, il y avait comme pas de papier, pas d'identité, ça lui a joué dans la tête, puis il est en psychose, puis là, on va l'envoyer probablement dans un hôpital psychiatrique où on va l'évaluer pour finalement dire après quelques temps, ben c'est beau, vous êtes correct, vous allez pouvoir sortir. Ça me tue, moi, à chaque fois. Là, t'as enlevé la vie de 2 enfants, Denis.
Écoute.
Puis de voir que le gars va s'en sortir de cette façon-ci. Puis, tu sais, son parcours psychologique, là, je ne le connais pas. Je suis pas les psychiatres qui ont travaillé là-dessus. Ils se sont présentés hier, les 2 psychiatres, en disant que Pierre Nie Saint-Amand, après ce qui est arrivé, se souvenait plus de rien. Puis, à un moment donné, il disait qu'il était pris avec une personne à l'intérieur de lui qui voulait prendre contact avec les parents puis les enfants décédés. Tu sais, quelqu'un qui saute une entité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Oh. Quelqu'un qui saute un crinque, là. Mais je veux dire, en bout de ligne, c'est quoi? Dans 2 ans, il va pouvoir retravailler, ce gars-là? Là?
C'est parce que dans des histoires comme celle-là, on n'a pas de sentiment de justice.
Non.
Pour qu'il y ait un sentiment de justice, il faut qu'une personne qui a tué des enfants s'en aille en prison. Puis on a de la misère à accepter des histoires de psychose parce qu'on se dit, ben rendu là, on a tous des épisodes de stress, que ce soit pour des raisons personnelles, des raisons de job. Hey, on est des impôts, là, ces temps-ci. Il y en a quelques-uns qui sont stressés puis qui sont cédants, là. On fait pas des psychoses, nous autres. Ouais, mais vous autres, vous êtes pas malades. C'est parce que, y a-tu quelqu'un de sain d'esprit qui tue du monde? Si on veut revenir à la plus simple expression du crime, il y en a pas beaucoup. Fait que rendu là, tu peux toujours blâmer la fameuse psychose où les fils se sont touchés, votre honneur. Puis tout
ce qui nous revient de ça, c'est de voir comment on prend soin des gens et de la santé mentale des gens, mais pas après un drame, expliquer et empêcher le règlement de compte social.
Tu sais, il y a du monde qui sont morts, puis moi, la seule façon que j'ai trouvé de me consoler en tant que citoyen, c'est de me dire, tant qu'il y a une porte qui ferme, puis qu'elle se barre, puis que c'est pas lui qui a la clé, que ce soit d'un asile ou que ce soit d'une prison, je veux dire, j'essaye d'aller chercher mon sentiment de justice là-dedans. Par contre, si dans 1 an et demi, on dit « la psychose, c'est fini, ça, c'est ta liste de médicaments, puis tu retournes chez vous. »
Retourne à la maison, je trouve ça inacceptable.
J'ai un petit peu de misère à gérer ça.
Ils ajoutent des détails, là, tu sais, là, ils sont en cours, ça a commencé hier, là, dans les 3 dernières minutes, ce qui est sorti, c'est qu'ils s'étaient dévêtus, mettons, après le drame, d'aller constater. Ils sont en train de les énumérer. C'est normal, en passant, là, ce que le journaliste et les journalistes font, là, c'est de rapporter la nouvelle, mais...
Puis là, il y a des gens qui commettent des crimes aussi, qui connaissent la stratégie puis qui l'essayent.
C'est ça.
Bissonnette l'a essayé.
On jasait de ça.
Ça fait passer pour fou. Puis, tu sais,
puis ça n'a pas marché.
Je répète, là, tu sais, des enfants qui ont été victimes de violences dans leur enfance, là, j'ai plein d'empathie pour eux. Mais c'est quoi? C'est 1 à 2 % de ces enfants-là qui vont commettre des épisodes de violence. Est-ce que c'est vraiment un facteur atténuant rendu en cours? Tu sais, moi, là, je lisais le nom des petites victimes. Là, Jacob Gauthier, 4 ans, Maëva, 5 ans. Pour vous autres, ça dit absolument rien, mais pour des parents, eux autres, c'était leurs enfants, c'était toute leur vie qui ont été, qui étaient dans ces petits êtres-là. Puis là, ils voient un gars qui va probablement s'en sortir assez facilement. Puis les psychiatres Kim Bédard-Charette et Sylvain Fauché ont dit que les hypothèses les plus plausibles, c'est un épisode psychotique non spécifié ou bref. OK, suivant ça, on va le traiter pendant quelques mois, quelques années, 2-3 ans, puis on va le laisser ressortir. Moi, j'ai de l'empathie pour les gens qui font des psychoses, là, mais ils devraient être dans un hôpital pendant 25 ans. Si t'es quelqu'un de saint d'esprit que tu es, t'es dans une prison pendant 25 ans. Mais de l'autre côté, l'hôpital psychiatrique pendant 25 ans, ça serait une belle forme de justice. T'as tué, t'as enlevé la vie de deux enfants.
Puis si on veut faire une image sombre, mais réaliste, les parents des enfants décédés, eux autres, ils ont reçu une sentence à vie, tu sais.
Exact.
Ils vont se débattre dans leur propre prison avec les restants de ce qui reste jusqu'à la fin de leur jour, en se posant plein de questions qu'ils ne devraient pas se poser, en se tordant le cœur, en se tordant la tête. C'est ça qu'on n'accepte pas. C'est ça qui fait le plus mal. Ouais. C'est de dire, OK, lui, il est en psychose, il est correct, on va lui donner ses médicaments, puis après ça, on va le relâcher. Puis pendant ce temps-là, ben les victimes sont comme pognés avec leur triste sort, puis eux autres, les enfants, ils reviendront jamais.
C'est bien malheureux.
Pense aux parents.
Une personne qui a un problème de santé mentale aussi est capable de dealer avec les conséquences d'action, et ça amène souvent à une prise de médication. Ça amène avec un sentiment de « je veux pas me désorganiser, donc je vais prendre au sérieux la façon dont je vais être traitée ». Et ça, là, c'est relié avec la justice, mais c'est super important. Si tu veux que les gens s'organisent dans leur désorganisation, il faut qu'il y ait des conséquences à des actes.
J'ai une idée, un flash. Si on donnait des sentences en institut psychiatrique, est-ce qu'on serait mieux avec ça de dire...
Ben, je pense que oui.
Psychose, mais tu t'en vas 15 ans, 20 ans en institut psychiatrique, puis eux autres rendus là, s'ils te considèrent sain d'esprit, ben tu seras le maître de la game de cartes au centre social, c'est toi qui tiendras les réunions avec les plus maganés ou whatever, mais t'es là pour 15 ans, t'es là pour 20 ans, ce serait-tu une alternative où on aurait peut-être un meilleur sentiment de justice?
Avec analyse psychologique, par exemple.
Oui, oui.
Je pense aux enfants, puis aux parents. Les parents qui ont vu leurs enfants partir, puis ont dû les enterrer pendant qu'ils regardaient les nouvelles, puis à chaque jour, on parlait de cette histoire-là. Là, le début du procès où les parents sont dans la salle, puis ils doivent se retaper l'accident où ils voient leurs enfants se faire écraser. Puis après ça, ils entendent les psychiatres dire « Ouais, ben pauvre petit, c'était pas de sa faute, il était dans un épisode psychotique par rapport à ce qu'il avait vécu dans son pays étant enfant. » Fait que ça se peut qu'il s'en sorte. Je pense aux parents, il faut que justice soit rendue, parce que comme tu le dis, ces parents-là ont une sentence à vie, puis les enfants vivront pas la vie qu'ils auraient dû vivre. Fait que oui, la solution, ce serait être dans un institut psychiatrique pendant, au même titre que le prisonnier, pendant 15 ans ou 20 ans. C'est juste qu'il va être dans un hôpital plutôt que dans une prison. Mais je sais pas. Je me mets en place peut-être un peu trop des parents.
Puis le pire, c'est qu'eux autres, s'ils veulent commencer leur réparation, il faut qu'ils se dissocient de ça le plus rapidement possible. Parce que si tu lâches pas le morceau, si tu te résignes pas, tu ne seras pas capable de commencer à guérir. Il faut que tu abandonnes ce bout-là, le sentiment d'injustice, le fait qu'il n'y aura pas de sentence qui va compenser ta perte à toi. Ferme la TV, ferme la radio, puis concentre-toi sur ta réparation, la réparation de ton couple, la réparation de la famille.
Ça doit tellement être tough, par exemple.
Écoute, il y en a qui n'y arrivent pas, tout simplement pas.
Autre mauvaise nouvelle pour les parents, les employés de 400 CPE dans la province qui vont être de nouveau en grève pour 3 autres journées la semaine prochaine. Donc, 14, 15 et 16 avril, les parents devront donc se trouver des solutions pour faire garder leurs enfants. Et ce qu'on dit, c'est que il y a un désaccord là, pour ce qui est des gardiennes, pas des gardiennes, mais des éducatrices en garderie. Il y a un désaccord sur les salaires, le fardeau des tâches, les primes pour les travailleurs dans les régions et l'aide pour les enfants ayant des besoins particuliers. Puis de son côté, bien, le gouvernement dit qu'on offre aux éducatrices une augmentation salariale de 17,4 %, soit la même chose que 98 % des employés de la fonction publique avec lesquels le Trésor s'est entendu dernièrement. Et c'est 91 % des travailleurs en CPE qui sont affiliés à la CSN et qui ont voté le 19 mars en faveur d'un mandat de grève pouvant aller même jusqu'à la grève générale illimitée. Fait que je répète, 14, 15, 16 avril, pas de CPE, les amis.
Tout ce que tu m'as expliqué, c'est des problèmes entre le gouvernement et les éducatrices. Pourquoi les parents écopent encore? Il n'y a rien qui crie solidarité comme de dire à des parents « Organisez-vous avec vos troubles ». J'ai jamais compris cette façon-là de faire les choses, de prendre tes clients littéralement en otage, de créer des désagréments qui font en sorte que tu te dis, ben là, pourquoi c'est moi qui écope au bout de la chaîne, là? Toi, tu as un problème avec ton employeur. Pourquoi tu me pitches ce problème-là d'un main, tu sais. Nous autres, on paye pour avoir accès à un service. Normalement, c'est un service qui est fiable. Là, tu me dis, hey, je négocie mon salaire. Fait qu'organise-toi avec ton kid. Si t'es pas capable de prendre une journée de congé, ben amène-le à job. Puis Dieu sait qu'il y a des milieux qui sont pas faits pour ça, là. C'est d'emmerder la vie du simple citoyen. Et c'est un caprice syndical qui perdure probablement parce que ça fonctionne et c'est malheureux, puis on devrait jamais céder à partir du moment où la population est prise en otage.
Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux autres? Les transformer en travailleuses autonomes, puis qu'ils puissent se réunir ou sinon garder des enfants, 2-3 enfants chez eux, puis on fait un prorata, là, combien ça coûte un CPE versus les enfants qui sont à l'intérieur, puis on donne ce montant-là à chaque éducatrice. Fait que t'as le droit à 3, t'as le droit à 4, ben garde-le chez vous tout simplement. Ça fonctionnait comme ça dans le temps, puis c'était pas subventionné.
On a voulu étatiser cette portion-là de notre société. On glorifie encore Pauline Marois pour ça. Moi, j'ai de la misère à voir les retours là-dedans.
Parce que les montants de départ de Pauline Marois, là, c'était ridicule. C'était quelques centaines de millions de dollars. Puis là, on est rendu dans les milliards de dollars investis là-dedans d'un CPE avec des propriétaires de CPE qui se donnent des salaires avoisinant les 100 000 à 150 000 $. Je veux dire, t'as un restaurant, là, tu fais pas ça 150 000 $. Mais un propriétaire de CPE qui, lui, ne s'implique pas, comme les éducatrices spécialisées, fait un gros, gros salaire. C'est ça que Pauline Marois a créé aussi.
Écoute, moi, à partir du moment où on a les moyens de les payer puis qu'on décide que c'est une des grandes priorités de notre société, je veux bien. Mais actuellement, tout le monde en arrache. Le gouvernement se doit le cul parce qu'on perd des millions et des fois des milliards dans des projets qui ne soulèvent pas le sol. On essaye de jouer à toutes les tables en même temps. Si tu fais ça au casino, là, après une demi-heure, t'as plus une scène. Là.
Les lucides qui m'écrivent au 418-971-101, David qui dit « Salut, tu sais, quand tu vis à 100$ près de boucler le budget, 3 jours de job en moins, ça écœure en estime. »
Ben, c'est sûr. C'est sûr.
C'est ça, la réalité.
Comment
c'est
tu veux?
C'est la banque, là, encore disponible aussi. Ton employeur, des fois, il n'a plus de possibilités, là.
Puis, je reviens à quelque chose qu'on a vu avec l'école bleue aussi. Les gens qui sont pris en otage, souvent, font pas le salaire des gens qui les prennent en otage. Tu vas porter tes enfants, tu gagnes moins que la personne qui va les prendre, mais la personne qui va y prendre va te dire « Non, 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 t'es garde aujourd'hui parce que je négocie pour augmenter mon salaire. » Toi, dans le char à 75 000, comment tu te sens, tu sais? C'est choquant, là.
Mais là, c'est ça qui est triste parce que ça vient qu'à déchirer.
Ben oui.
Ça vient qu'à déchirer quand... Je suis pas mal sûre que les parents seraient vraiment derrière les éducateurs, les éducatrices en garderie avec d'autres types de moyens de pression. Mais là, je relance la balle du côté du syndicat qui, eux, les orientent encore mal dans leurs moyens de pression puis qui se renouvellent pas. Puis après, le syndicat s'en lave les mains puis tout ce qu'on se souvient, c'est à quel point ils nous ont fait tuer les éducateurs avec... Et ils n'ont pas notre soutien derrière tout ça, tandis que je sais qu'il y a tellement de parents qui les aiment et qui vénèrent ces gens-là qui prennent soin des enfants au quotidien. Là.
Mais je suis sûr que c'est une phrase qu'ils ont entendue souvent. Écoute, je serais de ton bord, mais là, tu me fais chier. Là.
Pis c'est triste parce que le gouvernement et le syndicat s'en sortent à toutes les fois, même avec les enseignants. Avec les enseignants, on l'a vu dans la grève.
Cette stratégie-là fonctionne. Prendre la population en état, en otage, ça fonctionne. Fait qu'ils apprennent.
Rappelez-vous le gouvernement, comment il se retournait vers la population en disant « Voyez-vous, les enseignants, ils scrapent l'éducation de vos jeunes parce que là, ils font une grève. » Eux, là, ça les alimente. Et officiellement, à la table de négociation, ils sont capables de dire « Ben là, vous ruinez le Québec. » De toutes parts, financièrement, puis de façon éducationnelle.
Puis nous autres, ben on paye, puis à chaque fois que quelqu'un va augmenter son salaire, ben on perd un service, on se fait prendre en otage, puis après ça, on se demande pourquoi le monde est fâché. C'est sûr que le monde est fâché à un moment donné. Il y en a qui pètent les plombs. C'est malheureux, mais c'est ça.
Hey, thumbs up à Nicolas Brasseur du Journal de Montréal, Journal Le Soleil. C'est un débusqueur de fausses nouvelles.
Ah, j'aime ça.
Bien souvent, il prend des citations de ministres ou encore de candidats, que ce soit au parti, que ce soit à l'Assemblée nationale ou encore à Ottawa, puis il prend une citation puis il la vérifie. Mm. Et là, la citation que Nicolas a pris cette semaine, c'est Luc Berthold qui mentionnait au sujet des impôts payés par les Canadiens après 3 mandats du parti Justin Trudeau que les Canadiens dépensent plus en impôts que pour la nourriture, les vêtements et le logement réunis après 10 ans du gouvernement libéral. Et la réponse, c'est vrai.
Et s'ils ont vérifié, c'est probablement qu'ils trouvaient ça gros comme affirmation. Mais ils sont obligés de reconnaître que factuellement, si tu regardes les chiffres de Statistique Canada, entre autres, ben c'est une triste réalité. On paye plus d'impôts qu'on paye pour se nourrir puis se loger.
Une famille canadienne au revenu moyen accordait une plus grande partie de son revenu aux impôts qu'au logement, ainsi qu'à l'achat de nourriture et de vêtements en 2023. Le rapport indique que les retenues salariales de l'impôt sur le revenu représentaient environ 43 % alors que les dépenses combinées pour le logement, la nourriture et les vêtements est évaluée à 36 % Le 21 % restant sert entre autres aux achats de la vie quotidienne, comme le transport, les soins de santé ou encore les loisirs. Le pourcentage d'impôts cité dans l'étude, dont les données proviennent de Statistique Canada, prend en compte plusieurs éléments comme les taxes de vente et les taxes foncières, ainsi que les impôts payés au gouvernement fédéral, provincial et municipal. Si vous habitez au Québec, principalement si vous habitez dans la ville de Québec, vous êtes les citoyens les plus imposés en Amérique du Nord.
Si,
cadeau.
Si on respecte la mathématique pour en avoir pour notre argent, ça veut dire que les gouvernements en feraient plus pour nous autres que ce qu'on fait pour nous autres pour se loger, se nourrir puis se vêtir. Avez-vous l'impression d'avoir ce retour-là du gouvernement avec les services, la qualité des routes?
C'est pas une question, hein, ça.
Ben non, c'est une évidence. Ouais. C'est une évidence que nous autres, on rentre pas dans notre argent, puis on n'a pas le service qui va avec l'investissement.
Puis on n'a pas les politiciens qui gèrent en ayant cette conscience-là, on dirait.
Ben, ils arrivent dans la machine, on va changer les choses, puis ils voient que ça change pas. Puis
c'était moins pire avant, là, les finances, là, puis annoncer des déficits avec un sourire, on voyait pas ça, puis on tenait à ce que... Puis le Parti libéral a été vu longtemps comme un parti de finances, le parti au provincial libéral, puis le Parti conservateur, mettons, au fédéral, c'était leur chevaux de bataille, puis ils réalisaient le plus possible.
Les sourires niais de François Legault et Éric Girard sont les sourires les plus insultants que j'ai vus, je pense, depuis que je suis la politique.
Mais Denis, là...
On est content de ce budget-là. Ben oui, super content. On est en train de tout couper les projets à grandeur de la province et on fait ça avec le sourire.
Ils vont les ramener, Fitzgibbon, check bien pour gérer les finances.
Penses-tu qu'il est bien avec sa moto et sa blonde sur le bord du lac? Tu le reverras jamais,
sur le patio avec sa corona, il a mis une lime aussi.
Ouais. Qui avait dit la finalité comme peuple, c'est pas d'équilibrer le budget. La finalité, c'est d'être heureux comme peuple, d'avoir une croissance économique et de gagner à court terme.
C'est-tu un ministre des Finances libérales, ça?
C'est Raymond Bachand.
Raymond Bachand,
L'ancien ministre québécois des Finances qui était pas capable d'équilibrer le budget.
Ouais. Si on se doit le cul, c'est pas grave. Tant que t'es heureux.
Tant que t'es heureux.
Accueille ça avec le sourire.
Ben, il y avait quand même la nuance de dire qu'il fallait investir puis ça rapporte.
Je l'ai toujours dit. On est bien imbécile heureux. Midi 29, on fait une courte pause. Merci, Denis Gravel. 418-971-101. 418-971-101. Si vous avez quoi que ce soit à nous dire, les amis.
Rage Against le matin.
Dites-moi donc, M. Déragé, qui est le plus pire, Jonathan Julien ou Geneviève